7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, rencontre avec Ngone Fall, une femme architecte à la tête d'un grand rendez-vous sur plusieurs mois en France et dans les territoires d'outre-mer, Africa 2020. Des rencontres, des lieux pour dire l'Afrique autrement, 2 ans de préparation qui seront peut-être, probablement affectés par la pandémie. Bonjour Ngone Fall.
Bonjour.
Merci de passer chez 7 milliards de voisins. Vous êtes donc commissaire d'exposition, chef d'orchestre de la saison Africa 2020, Africa 2020. Je sais que vous n'avez pas tellement qu'on parle de rendez-vous culturel, parce que c'est bien plus que cela.
Oui, c'est bien plus que ça. La saison Africa 2020, c'est véritablement le regard des sociétés civiles du continent sur l'état du monde, des enjeux du 21e siècle. Et ça concerne tous les champs de l'activité humaine.
Et justement, on va parler de l'avenir du continent, de sa jeunesse, de ses villes qui s'étalent inexorablement pour le meilleur de la création artistique, dans une forme d'instantanéité, mais aussi avec le chaos urbain non planifié. Africa 2020 laisse une large part à des réflexions sur l'éducation, sur les femmes. Et puis en fin d'émission, reportage à Ouagadougou auprès d'activistes pour les droits des femmes qui veulent faire entendre leur voix dans la société. Annick Laurence Koussoubé milite contre les violences faites aux femmes et sensibilise les jeunes filles, on l'entendra.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Ngone Fall, Africa 2020, c'est d'abord un rendez-vous retardé à cause de la pandémie. 54 pays d'Afrique représentés, 450 projets, manifestations dans les arts, les sciences, l'entrepreneuriat, l'éducation, vraiment des thèmes extrêmement variés à travers la France. Et déjà, finalement, une immense résilience face à l'incertitude de ce qui pourra ou pas exister.
Oui, c'est le cas de tout le monde, hein, depuis le mois de mars dernier. Nous, très vite, au bout de 15 jours de confinement, on s'est posé la question et on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir démarrer ce projet le 1er juin 2020 comme prévu. Et donc, on a commencé à discuter avec tous nos partenaires. Hein, on en a plus de 183 en France et plus de 200 sur le continent. Et tous ensemble, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un projet collectif. Je ne suis pas la productrice d'un événement où on déroule des projets aux quatre coins de la France. Ce sont des projets qui sont proposés par des opérateurs français qui systématiquement travaillent en partenariat avec une personnalité, un ou plusieurs opérateurs du continent, et qui ont fait un projet où réagissent à une des questions que soulève la saison. Donc ce sont ces 23 questions qui sont classées en 5 thèmes. Donc il a fallu que tout le monde, collectivement, se mette en mode décalage. Et donc on a décalé de 6 mois. Pour démarrer en décembre. Et en décembre, en fait, il y a eu de nouveau un confinement sur l'Hexagone. Mais la Guyane, qui n'était pas confinée et qui n'avait pas de couvre-feu, a démarré ses projets. Et l'éducation nationale, avec qui on est en partenariat stratégique, les classes avaient déjà commencé, en fait, à la rentrée scolaire au mois d'octobre. Donc, tous les travaux pédagogiques avec les classes ont commencé à ce moment-là, et certains projets ont commencé en ligne, notamment des projets en sciences avec la Cité des sciences et de l'industrie. Ouais. Mais ce défi d'avancer, d'essayer de se projeter avec incertitude, de pas être en fait maître du temps. C'est ça. Je crois que c'est ce qui est frustrant pour tout le monde.
Rien ne se déroule comme prévu. C'était un rendez-vous voulu par le chef de l'État, oui. Emmanuel Macron. Et en Europe, nous, on découvre à la lumière de la pandémie la gestion de l'incertitude permanente, un futur vacillant. Qu'est-ce que l'Afrique peut nous apprendre sur cette gestion de l'incertitude ?
Qu'en fait, l'incertitude, en fonction des pays, ça fait aussi partie du quotidien. Il faut savoir s'adapter. Hein. C'est un peu comme la métaphore du roseau. Et que résister dans le cadre de cette pandémie, malgré la frustration, ça ne sert absolument à rien. Il faut être un peu philosophe, sans pour autant être défaitiste non plus, mais être très pragmatique, extrêmement souple, et faire des paris, on va dire, raisonnables, des pronostics. Donc, certains projets, on est en discussion permanente hein, depuis le mois de mars avec tous les partenaires. Donc, certains sont en train de passer en mode semi-présentiel ou de repenser le projet pour en faire un projet numérique. C'est pas moi qui fais, ce sont les projets des gens. D'abord, ça, s'il faut le souligner. Et en plus, il s'agit pas juste d'appuyer sur un bouton. La façon dont on conçoit un projet en numérique et la façon dont on le conçoit en présentiel, ce n'est pas du tout la même chose. Les auditeurs qui m'écoutent et qui sont amateurs de ces questions, ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, ça nécessite de repenser son projet pour chaque opérateur. Et c'est un travail donc qui est en cours. Certains le font, d'autres se décalent dans le temps et on avance pas à pas avec avec tous les partenaires. C'est crispant, c'est frustrant, c'est prise de tête.
Ouais.
Mais c'est une saison collective, c'est une aventure collective qui place l'humain au centre. Et bien pour l'instant, la Covid veut pas que ces êtres humains se rencontrent. J'y peux rien.
Et toujours un même objectif, hein, comprendre un point de vue africain, casser les barrières physiques et mentales en concevant les projets avec la société civile. Vous le disiez. Comment vous aimeriez que les Français regardent les Africains, parce que c'est bien un projet sur le sol français.
En fait, qu'ils arrêtent de nous regarder, parce qu'on n'est pas des bestioles. Ça, c'est la première chose. Qu'ils se disent, ils sont comme nous. Voilà, ils ont peut-être des prénoms bizarres, des couleurs de peau qui sont pas comme la mienne, mais on est exactement pareil. Donc, il s'agit pas de nous regarder différemment ou pas différemment. C'est juste de se dire qu'on est pareil et qu'on a les mêmes espoirs, les mêmes frustrations, les mêmes rêves. Et qu'on a des approches, une façon d'aborder le quotidien, son voisin, la vie, les projets, par rapport à des contextes très spécifiques, mais où on trouve des solutions et qu'on sait faire face à l'adversité, et que peut-être que ça peut inspirer certaines personnes en France.
Une adaptabilité permanente, même d'ailleurs auprès de la création artistique, où souvent les artistes, pas tous hein, bien sûr, mais peuvent dépendre d'une opportunité d'achat de matériel, d'une rencontre fortuite, eux aussi ont cette adaptabilité permanente sur le continent africain.
Les artistes, comme monsieur et madame, tout le monde, oui. J'allais dire comme Mamadou et Fatoumata, oui, tout le monde s'adapte parce que les contextes ne sont pas non plus les mêmes. Vivre à Dakar, ce n'est pas la même chose que de vivre à Lubumbashi ou que de vivre à Dirdawa en Éthiopie. Et que chacun, par rapport à son contexte, à sa réalité, avance en tenant compte.
Alors, vous parliez de l'éducation. C'est vrai qu'Africa 2020 a pu démarrer dans les écoles, puisque les écoles ne sont pas fermées pour le moment. Enseigner enfin l'histoire de l'Afrique en France. Et d'ailleurs en Afrique, la question pourrait être retournée. Enseigner l'histoire de la colonisation, ce qu'a été la vie quotidienne sous la colonisation, par exemple, c'est des questions qui sont déjà dans les tuyaux, que beaucoup de gens se posent. L'historien Benjamin Stora a remis cette semaine un rapport au président de la République sur la colonisation et la guerre d'Algérie, dans lequel il préconise, entre autres, de revoir les programmes scolaires. Est-ce qu'il y a, à votre avis, sans qu'on en fasse une question politique dans cette émission, mais un vrai vide dans la transmission du passé auprès des enfants, quelles que soient leurs origines dans les écoles sur le territoire français?
Je peux vous parler de ma propre expérience.
Oui, oui.
Donc moi, j'arrive en France en 1986 pour faire des études d'art graphique d'abord. Et on avait un prof breton de dessin qui aimait déclamer quelques vers au début de chaque cours. Et donc là, il déclame, il sort deux, trois phrases. Et tout de suite, j'ai levé la tête, nos regards se sont croisés, on a souri. Ça se fait à chaque fois où on déballait nos affaires, nos cartons à dessin, et etc. J'ai tout le reste de la classe, une promotion de 100, donc ça fait quand même pas mal de jeunes, hein, de 18, 19 ans. Personne ne réagit. Ouais. Et donc il dit, qui est-ce que je viens de citer?
C'était pas du Aimé Césaire par hasard?
Si, donc je lève la main et je m'aperçois que je suis la seule à lever la main. Donc je dis Aimé Césaire. Toujours l'indifférence générale de mes camarades. Et donc là, il me regarde, il fait un clin d'œil et il dit « Qui est Aimé Césaire ?» Donc je lève la main et donc je lui dis « Écrivain et député maire de Fort-de-France ». Toujours l'indifférence générale. Et donc il dit « Qui n'a jamais entendu parler de ce monsieur ?» Là, j'ai baissé la main et les 99 jeunes Français ont levé la main.
Ouais. Et donc là, on est dans une école supérieure d'architecture ultra renommée, l'ESA, à Paris.
Non, là, c'était à l'école supérieure d'art graphique. C'était à Penningen.
Pardon. C'était à Penningen. Ah ouais, d'accord. Enfin bon, une école très renommée aussi, oui. au milieu des années 80.
1986, ouais. Septembre 1986. Donc je suis restée un peu dubitative. Et puis après, effectivement, en discutant avec les étudiants, moi, j'étais un peu étonnée de savoir qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cet homme politique, de cet écrivain, et que, au fur et à mesure des années, en croisant des Français, parce que j'en croise quand même, je me suis aperçue que j'en savais plus sur leur histoire que eux sur la mienne. Et je me suis posé la question, je leur disais, mais on vous apprend quoi à l'école? ou bien est-ce que c'est un enseignement qui est totalement insulaire? Vous n'êtes pas né en tant que société ex nihilo. Tous les peuples sont en contact les uns avec les autres depuis que l'homme s'est marché. Est-ce que vous avez cette conscience-là de ce qui vous lie aux autres territoires, au-delà même d'une histoire coloniale? Eh bien, cette conscience, elle n'est pas vraiment forte chez les personnes avec qui je discutais. Et quand j'ai commencé cette saison, où pour moi, justement, cette idée de transmission et de production de savoir est au cœur du projet, j'ai par curiosité, j'ai regardé ce qui était enseigné par rapport à l'Afrique dans les manuels scolaires, parce que j'étais un peu fatiguée des questions stupides. J'excuse les auditeurs français, mais j'en ai marre un peu des questions stupides qu'on me pose par rapport à l'Afrique. Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire là, en partant peut-être justement des outils pédagogiques de l'histoire générale de l'Afrique, puisqu'au départ, c'est l'Union africaine qui demande à l'UNESCO de transformer ces volumes en outils pédagogiques, avec comme ambition qu'à terme, tous les enfants africains sur le continent utilisent les mêmes manuels pour apprendre l'histoire et la géographie de leur continent. Et puisque ces outils numériques ont été conçus en français, je me suis dit, ben, on n'a qu'à les offrir à la France. Oui. Ils en feront peut-être quelque chose. Et c'est comme ça que l'idée a mûri. Et il y a eu plusieurs échanges à la fois avec l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale de jeunesse et des sports. Et donc, on a lancé ce chantier dans le cadre de la saison Enseigner l'Afrique, avec des formations de formateurs, des formations d'enseignants sur la base du volontariat. Il n'est pas question d'imposer un nouveau programme scolaire en France, hein. C'est pas du tout ça l'idée. Mais en tout cas, au moins de pouvoir s'appuyer sur des sources qui sont validées par tous les Africains à l'échelle d'un continent. Et c'est un travail sur le long terme. La saison n'est que l'amorce de ce programme-là.
Et de donner, évidemment, de quoi nourrir la prise de conscience de tout ce qui manque, finalement. Enseigner la colonisation, c'est lutter contre les pièges des mémoires individuelles, comme le formule Benjamin Stora.
Je sais pas, j'ai pas lu son rapport, mais en tout cas, il y a cette histoire qui est française, et qu'il serait bien que les Français en aient conscience, et qu'on ne reste pas dans ce que j'appelle un délire schizophrénique, de se dire l'histoire de la colonisation, c'est une aventure coloniale où la France a apporté les lumières à des sauvages qui étaient dans les ténèbres. Ça, ce n'est plus acceptable au XXIe siècle. Mais de connaître cette histoire, et de savoir à travers cette histoire comment est-ce que la France a pu se développer sur le plan économique. Ce qu'on le président de la République dit dans un de ses discours, une partie de l'avenir de la France dépend de l'Afrique, certes, mais son passé aussi.
Oui.
Parce qu'à travers la colonisation et l'esclavage, c'est la révolution industrielle qui se met en place, et cette révolution industrielle permet à l'Occident, justement, de se développer.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous, là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Alors quittons les ténèbres, abordons les lumières de la ville, les lumières des villes africaines qui sont en croissance exponentielle, extrêmement dynamique. Vous avez lancé les premières réflexions d'Africa 2020, d'ailleurs en réunissant des personnalités résidentes sur le continent, ouvertes sur le monde, dans une des plus grandes villes africaines, une petite ville du bord de mer, Saint-Louis, chargée d'histoire, Saint-Louis du Sénégal, une ville classée au patrimoine mondial, qui en ce moment est au bord de la faillite, désertée par les visiteurs, endeuillée aussi par les disparitions en mer de jeunes qui eux, ne croient plus en leur avenir sur le continent.
Oui, c'est assez dramatique. Bon, Saint-Louis, c'est par affection, parce que 75% de mes ancêtres sont Saint-Louisiens. Que c'était important de faire cette réflexion en terre africaine. Saint-Louis, je joue à domicile, donc s'il y a le moindre problème financier, sanitaire, avec mes camarades, je gère, on va dire. Saint-Louis, c'est une île, donc je sais que je vais pas les perdre au bout de 24 heures dans des bars ou qui vont aller faire autre chose que ce pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire réfléchir à l'état de nos sociétés. C'est une ville française au départ, qui est construit par les Français, c'est pour ça que ça s'appelle Saint-Louis, même si nous on dit Ndar. Donc c'était aussi de faire ce clin d'œil par rapport à la France. C'est une, moi j'appelle ça un peu comme une maîtresse délaissée, qui était la capitale des colonies françaises en Afrique de l'Ouest, qui a été supplantée par Dakar. Tous les Saint-Louisiens ont suivi le transfert de la capitale, sont allés à Dakar. C'est pour ça que je suis dakaroise et non pas Saint-Louisienne comme mes parents. Et que oui, c'est un charme suranné. Et que effectivement économiquement en plus il y avait un aéroport international qui ensuite a été fermé, il y a un projet de le remettre de le rénover pour que le tourisme redémarre. Entre-temps, il y a eu la pandémie.
C'est révélateur de beaucoup de choses finalement cette ville.
Oui, 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 c'est une ville qui a toujours été cosmopolite parce qu'elle est aussi au carrefour, je veux dire elle est aux portes du désert donc elle est multiculturelle, multilangue, multiraciale, multitout. Il y a des Saint-Louisiens noirs charbon qui s'appellent d'Erneville, de Villiers, il y a des Saint-Louisiens noirs aux yeux bleus ou aux yeux gris. Alors, c'est une ville qui a aussi qui est à l'origine de tout l'art culinaire sénégalais. Tous ces plats, cette recette, un art de vivre à la sénégalaise. Je suis un peu chauvine quand je dis ça, mais je l'assume.
Non, mais je savais que vous étiez intarissable sur Saint-Louis.
Oui, voilà. Faut pas me brancher sur Saint-Louis.
Mais en même temps, vous avez une très large connaissance du continent, notamment sur sa partie anglophone que nous connaissons la moins bien. À 8 ans, vous rêviez de devenir architecte. Est-ce que c'était pour avoir une main sur les villes du continent? Est-ce que vous saviez pourquoi à l'époque?
Non, à l'époque, j'aimais bien rectifier des espaces que je trouvais mal conçus. Mais je le dis ça comme ça en tant qu'adulte. Mais
à l'échelle des habitations, à l'échelle d'une enfant que vous
étiez. Oui, c'était les habitats. Dès que j'allais chez quelqu'un, je mémorisais les espaces, les plans, où sont les portes, les fenêtres, la taille de la pièce. Et après, je rentrais à la maison, je prenais un cahier d'écolier et je refaisais les plans. Donc je refaisais les plans des espaces où j'étais allée, peu importe l'endroit,
c'est pas banal, disant
que c'était mal fait. Et c'est là où mon père m'a dit, mais arrête de jouer à l'architecte, et il m'a expliqué ce qu'était le métier d'architecte.
Et alors, il y a peu de femmes architectes sur le continent africain, d'ailleurs peu de formation à l'architecture sur le continent, sur la partie en tout cas francophone du continent.
Il y a beaucoup de femmes architectes, c'est juste que vous ne les connaissez pas. Et on a un projet dans la saison justement pour leur donner la parole. Par rapport à la formation, il y avait une école d'architecture à Dakar qui a fermé en 1990.
Exactement.
Quand justement sur conseil, on va dire, du FMI et de la Banque mondiale, voilà, dans ces années noires d'ajustement structurel, le Sénégal a fermé tous ses établissements culturels, que ce soit d'enseignement ou de diffusion, conservatoire, l'école Moudra Afrique, etc.
Une formation a subsisté au Togo, me semble-t-il.
Donc il y a une formation au Togo. Il y a entre-temps d'autres universités qui ont monté des antennes, je pense notamment au Cameroun. Mais effectivement, aujourd'hui, en dehors de l'Afrique du Nord, les grandes universités en architecture, c'est surtout l'Afrique du Sud. Mais il y a des architectes femmes, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai croisé. Il y en a peut-être moins de ma génération. Je parle des cinquantenaires. J'ai gardé quand même un contact avec les différents milieux en architecture, mais il y a énormément de femmes architectes.
Les femmes architectes du continent, n'ont pas conçu les villes africaines d'après les indépendances.
Non, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de femmes architectes. Donc effectivement, le groupe de femmes architectes dont je parle sont des quarantenaires. Donc elles sont nées bien après les indépendances de leur pays pour celles qui ont été colonisées. Et effectivement, leur rapport à la ville, c'est-à-dire que ce sont des villes dans lesquelles elles sont nées, dans lesquelles elles ont grandi, qui sont pour elles des habitats, on va dire, des contextes naturels. Donc de ce chaos structuré, parce que ça a l'air d'un grand bazar, mais c'est extrêmement codé sur le plan urbain. Effectivement, ce sont des villes pleines de vie, mais moi, c'est ce que j'appelle le joyeux bazar. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'une ville avec toutes ses normes, toutes ses règles qui finissent par ne plus avoir d'âme tout est permis.
Alors aidez-nous à lire ce chaos des villes africaines.
Alors c'est-à-dire que l'espace public n'appartient à personne, donc en fait il appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'il est occupé. C'est aussi des pays où le climat nous permet de vivre beaucoup à l'extérieur. Et donc tout se passe aussi à l'extérieur.
C'est ça. Dedans, dehors, y compris pour le commerce informel.
Y compris surtout pour le commerce. Donc ce rapport à l'espace public est totalement différent, puisque chacun s'approprie l'espace public en fonction de ses besoins. Et ça peut être un besoin quotidien ou juste un besoin ponctuel. Et qu'effectivement, on n'est pas dans des plans quinquennaux où des villes se sont développées, où on a prévu la démographie. Pas du tout, les États ont tous été rattrapés par la démographie et que c'est devenu ce grand n'importe quoi vu de l'extérieur. Mais dans ces villes, il y a la vie.
Et la création.
Ce qui manque parfois dans certains pays, et pas seulement pays occidentaux. Et dans la vie, il y a forcément la créativité.
La créativité, on va en parler avec vous, Ngoné Fall. Vous auriez pu travailler auprès d'un architecte célèbre, Christian de Porzamparc. Vous avez choisi de cofonder la revue.
Je ne l'ai pas cofondée. Je suis arrivée 2 ans après.
Oui, et vous l'avez dirigé ensuite.
Ouais. Après, je l'ai dirigé.
Vous allez choisir en tout cas de collaborer et de diriger la Revue Noire. Pour cela, vous avez labouré les villes, les quartiers, pour comprendre, pour montrer les talents des artistes.
Mais je pense que c'était assez pragmatique. Hein. On est dans les années 90, Internet n'existe pas. Et même au-delà de ça, pour savoir ce qui se passe à Kinshasa, ben, il suffit d'aller à Kinshasa, hein. C'est tout. Et de demander aux Kinois, c'est quoi cette ville, et de comprendre les contextes qui permettent la création d'œuvres, qu'elles soient littéraires, intellectuelles ou artistiques. Donc la démarche, elle était assez évidente. On peut pas parler de l'Afrique en étant dans un bureau à Paris. Et donc à chaque fois, c'est aller vers les gens et monter une équipe locale pour créer un numéro spécial.
Si je vous demandais quelle est concrètement, quotidiennement, la place des artistes dans les villes du continent, à la fois, on pourrait penser qu'ils sont en décalage par rapport aux préoccupations immédiates des habitants qui ont des préoccupations parfois triviales et pour cause, hein, de survie. Et en même temps, on a le sentiment, quand on est dans ces villes, qu'ils sont beaucoup plus proches des citoyens et des habitants que ne le sont les artistes en Europe.
Eh bien, tout simplement parce que eux-mêmes sont des citoyens de ces villes, de ces quartiers, dans lesquels eux-mêmes vivent au quotidien. Donc, ils ne sont pas dans un laboratoire qui serait leur studio, en train d'observer une population, et que leur première source d'inspiration, c'est justement le dynamisme de ces villes-là.
Vous pensez à un artiste en particulier, là, au
moment où vous dites
ça?
Je pense à une ville qui, pour moi, la ville la plus formidable du continent, c'est Kinshasa. Ah oui. Où il y a une créativité extraordinaire. Et pourtant, vu de loin, depuis les grands organismes internationaux, on se dit, mais la RDC, c'est dramatique.
Ou pourtant, et l'art n'est pas élitiste, pas forcément.
Non. Pas du tout.
Beaucoup moins que chez nous.
Parce que d'abord, il n'y a pas des grands musées. Où on vient sagement, en silence, contempler très passivement des œuvres. Donc déjà, ce rapport à une œuvre produite, elle est totalement différente. Les artistes ont investi la rue et l'espace public, tout comme des marchands ambulants. Moi, avec des amis à Dakar, on a fait aussi des projets dans l'espace public, justement pour aller à la rencontre des gens et avoir ce dialogue avec la population, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Mais des villes comme, je cite Kinshasa parce que pour moi c'est l'exemple le plus intéressant d'une ville énorme,
une mégalopole. On aurait l'équivalent.
Une mégalopole, mais en même temps avec une capacité de résilience, de créativité, d'autodérision que je n'ai jamais retrouvée dans aucune autre ville du monde.
On aurait l'équivalent côté anglophone?
De Kinshasa?
Non,
Kinshasa, c'est Kinshasa. Personne ne pourra jamais égaler Kinshasa.
Vous restez avec nous, Ngoné Fall. On parle bien sûr d'Africa 2020. Les femmes au cœur de la programmation d'Africa 2020, c'est aussi une réalité. On va en discuter avec vous dans quelques instants.
1 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal à l'aise.
Oh, Mbo Kanini. Courant c'est couranté, mighty mighty, et belle abat diplôme d'eau salaté. Ah, oh Mbokanini, courant c'est couranté, mighty mighty, et belle abat diplôme d'eau salaté.
Mboko yo trafic d'influence, et loco pamba, moke, tu sais qui je suis. Nakam écoute ou naba chauffeur à 100 sans bon tournapé, tu sais qui je suis. Aussi si kodami ba poso, bois kanandela, oyo kasonite. Wanape foleta, yako sala. Non, yaya, y'en est aux assalités. On n'est pas tribaliste, faut pas nous diviser. Côte Kolinga, ka équipa, ka écoloté. On n'est pas des sous-là, faut pas nous juger. On boit les bières parce qu'il n'y a pas l'eau au robinet. A pop, pop, champagne, go enter for your eyes. You go feel what I feel, pain and joy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini. Si t'es pas d'accord, j'suis pas là-bas. Aboukia.
Oh, Mbokanini. Courant, c'est couranté. Mighty, mighty. Et belle herbe à diplôme d'eau salaté. Ah, oh Mbokanini. Courante, courante. Mighty, mighty. Et belle herbe à diplôme d'eau salaté.
1500 sans pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 sans pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 sans pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 sans pas de monnaie. On est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal
à l'aise. La bière est moins chère ici que la nourriture. Faites un choix et à tous les prix. Premier bêterait plus de millionnaires que l'État. C'est pas un débat, j'ai seulement dit. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Aucun débat et défaut de face. Bassi mentalité, nos velas. Zangambongo, mes alanapelas. Internet, koutou, kolobaté. Ça, on a parlé jusqu'à fatiguer. J'ai à peine guetté deux statuts sur WhatsApp. Cher client, votre forfait est épuisé. Si je me barre au stade, je vais faire un carton. Mais pour ça, il me faut un passeport. À la préfecture, on m'a dit, monsieur, revenez demain, on n'a plus les cartons.
Young Eswaye Bokoyo Ngonefal, on a traversé le fleuve, on était à Kinshasa avec vous pour parler d'Africa 2020. Et là, c'est un artiste originaire du Congo Brazzaville qui a été lauréat du prix RFI Découverte d'ailleurs en 2020. Les femmes, je le disais, au cœur de la programmation de cette saison Africa 2020 qui va s'étendre sur tout le territoire français, y compris l'outre-mer, jusqu'au mois de juillet prochain, avec près de 400 événements que l'on espère pas trop affectés par la pandémie. Pourquoi les femmes au cœur de la programmation? Qu'est-ce que les femmes ont à dire, à nous transmettre, à nous aider à comprendre du continent?
C'est plus de 50% de la population du continent. Donc ça me paraît quand même important d'avoir les voix de la majorité, et que souvent on a tendance à oublier les femmes. Et donc là, même si évidemment elles sont présentes dans tous les projets, mais pour que ça ne passe pas à la trappe, comment les rendre superbes, visibles, c'est de faire un programme dédié, donc le focus femmes, les femmes dans les arts, dans les sciences, dans l'entrepreneuriat, et c'est systématiquement des projets qui sont portés par des personnalités féminines du continent, dans différents secteurs d'activité.
Ngonefal, je vous propose justement de donner la parole à une femme que j'ai annoncée en début d'émission, éloignée du monde de l'art, mais pas de la parole pour dire la condition des femmes, militante, activiste, féministe, on peut l'appeler comme vous voulez, Annick Laurence Koussoubé, à 30 ans, elle est responsable de plaidoyer à l'ONG IPBF et elle vit à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle partage son parcours, son engagement au micro de Raphaël Constant. C'est une rencontre à la fois optimiste et réaliste.
Pour moi, c'est simple. Être féministe aujourd'hui au Burkina, c'est défendre les droits des femmes et des filles. C'est la définition la plus simple pour éviter trop de polémiques autour de ça.
Vous, vous êtes particulièrement engagée contre les violences faites aux femmes, les violences de genre.
Oui, mais nous sommes aussi engagés dans le développement même de leadership de la jeune fille. Pour qu'une jeune fille puisse aller de l'avant, il faut d'abord qu'elle puisse prendre la parole. Si toi-même tu sais te défendre, il y a beaucoup de violences qu'on ne peut pas t'infliger.
Mais vous parlez de quel type de violence?
Toutes les formes de violence, physique, économique, sociale. Aujourd'hui, croyez-moi, c'est facile de battre une fille. L'excision est toujours une réalité dans notre pays. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui refusent à leurs femmes d'avoir un travail. On leur dit de rester à la maison pour qu'elles soient sous leur domination, au fait. De façon économique, elles ne peuvent pas se débrouiller. Et on a vu même ce domaine-là s'accentuer avec la crise du Covid-19. Quand le Covid-19 est arrivé, il y a beaucoup de femmes qui se débrouillaient déjà dans les marchés. Une fois qu'on a fermé ces marchés et qu'elles se sont retrouvées à la maison, beaucoup de leurs conjoints ne voulaient pas les soutenir économiquement. Donc, elles subissaient. Quel que soit ce qu'on va te faire, tu es obligé d'accepter si tu as besoin d'argent pour pouvoir survivre. On a même remarqué que ces violences même ont augmenté, les violences physiques, parce qu'il y avait les couvre-feux. Étant donné que le monsieur n'a rien d'autre à faire, il est à la maison avec sa femme. Étant donné que lui-même, ça ne va pas financièrement, toute sa colère, il la renvoie sur sa femme ou sur sa fille. Les écoles étaient fermées. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui étaient à la maison. Donc, automatiquement, elles subissent les violences.
Quel a été votre chemin jusqu'au militantisme?
Plus jeune, moi, je ne dis pas que j'étais féministe au début. Le milieu associatif m'intéressait. Je faisais des actions parce que c'était le côté humaniste, humanitaire qui me motivait. Je voyais les féministes, mais je les regardais de loin parce qu'il y avait toujours cette peur. On te dit, fais attention, ces femmes-là, c'est des problèmes. Alors que tous ces problèmes qu'elles citaient, tu les vis au quotidien tous les jours, mais tu as peur quand même d'aller. Et jusqu'au jour où je rencontre par hasard IPBF, l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme. Je m'engage avec IPBF, je commence à discuter. Je me rends compte que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est des réalités que je vis au quotidien, mais que j'accepte. Parce que la société m'a formée à accepter ça comme la normalité. Ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, trop c'est trop. Il y a un moment, il faut casser les choses. Et j'ai décidé vraiment de m'affirmer comme féministe. Je n'ai plus eu peur. Je le dis haut et clairement, je suis une féministe. Partout où j'ai l'occasion de poser des actions qui rentre dans la lutte des violences basées sur le genre, je le fais. Il arrive aussi qu'on organise entre nous des causeries où on invite des jeunes filles pour leur expliquer c'est quoi le féministe. Parce que le plus souvent, on dépeint ça comme étant quelque chose de diabolique, je dirais. Et on a besoin d'expliquer aux jeunes filles ce qu'on fait. On n'est pas des sorcières, on n'est pas un groupe qui se réunit dans le but de fomenter des coups d'État ou bien de détruire certaines choses. On organise des discussions comme ça où on invite des jeunes filles à venir comprendre et savoir ce que c'est et comment nous nous sommes arrivés là-bas.
Mais vous bousculez quand même la société, certaines mœurs.
Bien sûr qu'on bouscule. Quand tu dis à une fille de venir à une causerie et que tu lui dis qu'elle n'a plus le droit d'accepter ceci, d'accepter cela, alors que la société te dit que normalement tu dois accepter, c'est normal. Quand tu es au lycée, le plus souvent on te dit quoi ? Tout ce qui est matière scientifique, c'est pas pour les filles. Les filles doivent faire le littéraire. On te dit, oh, c'est bon, laisse ça, c'est pas pour toi, c'est trop, le niveau est trop élevé pour une fille, c'est plutôt les garçons qui doivent aller là-bas. Je me souviens quand je faisais aussi mon permis de conduire, j'étais la seule femme qui faisait le poids lourd. Je vous assure que les hommes la disaient, oh, dites à la fille, elle n'a qu'à aller là où il y a poids léger, là, c'est là-bas son coin, elle vient nous emmerder ici. Et bizarrement, j'étais la seule à avoir parmi tous ces hommes. Donc, quand tu bouscules tout ça, on te dit, voilà, tu viens pour déranger les gens, alors que c'est une norme que la société, les hommes, le patriarcat utilise. Il y a même la tenue vestimentaire. Quand tu es une fille et que tu n'aimes que les pantalons, c'est tout un problème. Parce qu'on se dit quoi ? Tu n'es pas féminine, tu es rebelle, tu veux montrer que tu peux être un homme, alors que c'est pas ça.
Et comment votre engagement, Annick, est perçu dans la société burkinabé ?
Il y a certains qui nous insultent, ça, il ne faut pas le cacher. On nous traite de tous les noms. Être traité de prostituée, être traité de fille frigide, d'homosexuelle. Le plus souvent, les gens me disent quoi ? Comme le mariage, c'est chez nous en Afrique, au Burkina, c'est le sommet de la réussite. On me dit le plus souvent, tu ne vas pas te marier parce que tu es féministe. Ça, on me le répète tous les jours. J'ai tout entendu. Mais je me dis que c'est pas grave. Il faut forcément qu'il y ait des gens qui subissent pour que la société aille de l'avant. Parce que j'aime dire que si aujourd'hui, moi, Annick, je peux lire, je peux parler, d'autres femmes avant moi ont eu à faire ce combat. Et il faut aussi que d'autres se sacrifient pour continuer ce combat. Quand je suis arrivée à l'IPBF, on m'a dit quelque chose. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Parce qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité de prendre la parole pour défendre mes droits et les droits des autres femmes et des jeunes filles, je ne rate pas cette occasion-là. Que ce soit une fête de famille, quelque part en tout cas, où on commence à stigmatiser les femmes, j'ouvre la bouche pour dire quelque chose. Voilà. Donc,
y a certaines... Est-ce que c'est difficile d'ouvrir la bouche ?
Par certains membres de ma famille, c'est très mal vu, parce qu'ils me disent que... Je me rébelle, je veux me montrer que je suis un homme. Par d'autres, au contraire, c'est très bien vu. Ils m'encouragent, ils me disent « ton combat est noble ». Maintenant, je suis arrivée à un stade où je ne prends que le bon côté, ceux qui m'encouragent. Ce que je veux laisser, c'est d'être courageuse. Je me dis que si j'avais été courageuse il y a de cela bien longtemps, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas vécues dans la société, que je n'aurais pas acceptées. Comme par exemple chez moi, que ce soit moi qui fasse le ménage, la cuisine pendant que mes frères regardent la télé. Si peut-être j'avais commencé plus tôt, j'aurais dit non. On est tous égaux, on doit se partager les charges de travail. Voilà, et je peux dire d'une certaine façon que ce que je subis comme violence, c'est minime par rapport à ce que certaines filles ou femmes subissent. Donc si moi je dois baisser les bras, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir ?
Et quel état des lieux du coup ?
Je ne vais pas être défaitiste. De plus en plus d'organisations commencent à descendre sur le terrain, à essayer d'accompagner les jeunes filles. Il faut qu'on se rende compte aussi d'une chose, on est plus nombreuses que les hommes. Le développement d'un pays ne peut pas passer si plus de la moitié de la population est mise de côté. Réellement sur le terrain, c'est ce qui est fait. Je pense que le gouvernement aussi fait un effort, mais comme on le dit chez nous, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Donc il faut continuer, il y a toujours un travail qui reste à faire. C'est pour ça qu'on est activiste, c'est pour ça que chaque jour que Dieu crée, quand on se réveille, on parle, avant de dormir, on parle.
À Annick Laurence Koussoubé, 30 ans, activiste pour l'ONG IPBF à Ouagadougou, une femme qui parle, qui manie le verbe au nom de nombreuses femmes et qui montre à Ngonéfal une réalité de l'Afrique, ses blocages, mais aussi cette incroyable énergie que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, mais je pense qu'elle a très bien dit les choses. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand je dis que cette saison, c'est une caisse de résonance par rapport à des réalités du terrain, ben voilà, donc il s'agit pas d'observer les Africains ou de changer de regard, mais de savoir et d'essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi les choses se passent comme ça. Mais moi, en l'écoutant, je pensais au premier mois du confinement, avec justement les cas de violence conjugale qui ont augmenté en France dans un silence total, avec des lignes de téléphone qui ont été mises en place et des mesures qui sont prises. Voilà, le fait d'être dans l'espace, dans ce entre deux, espace public, espace privé, il se passe quelque chose dans une maison, les voisins sont au courant dans pas mal de villes sur le continent, ce qui n'est pas le cas de Paris. Moi, je suis dans un immeuble, je connais pas mes voisins. Donc, si ça se trouve, il y a des violences faites aux femmes. On a un voisin qui est mort, on s'en est aperçu au bout de 3 jours, parce que la concierge le voyait plus passer.
L'anonymat, l'indifférence des villes du Nord.
Je pense pas que ce soit de l'indifférence. Je pense que chacun est recentré sur lui, sur son quotidien, ses problèmes. Et le confinement a renforcé ça, puisque chacun était barricadé chez lui. Et à cause du confinement, les violences faites aux femmes ont augmenté en France, oui.
Vous avez commencé cette émission en nous parlant d'Aimé Césaire et de vos souvenirs autobiographiques. Est-ce qu'il n'a pas écrit « La justice écoute aux portes de la beauté » ?
Oui, l'art, ça fait du bien. Et c'est beau, mais pas seulement visuellement. Aimé Césaire, c'est quelqu'un qui m'a marqué parce qu'il était au programme scolaire, tout simplement, en cours de littérature. Et que c'est à ce moment-là, en lisant Discours sur le colonialisme, que moi aussi, je prends conscience de beaucoup de choses. Il faut pas oublier que Dakar était une ville française. Donc moi, j'ai des parents et des grands-parents qui sont nés français. Donc il n'y a pas de traumatisme colonial au sein de ma propre famille. Mais de lire Aimé Césaire, oui, ça m'a beaucoup inspiré.
Après Africa 2020, est-ce que vous pourriez revenir à vos premières amours, l'architecture ?
Je ne sais pas. J'ai pas fait d'architecture depuis 2009, donc ça commence à dater. J'ai plus non plus 20 ans, hein, et on n'a qu'une seule vie. Ça me manque, ça c'est sûr, mais ça me manque, ça fait un moment que ça me manque. Mais il y a tellement d'opportunités, tellement de choses que j'ai envie de faire. Donc, est-ce que je retournerai à l'architecture ? Je ne sais pas. Mais si l'occasion se présente, j'en referai.
Alors, forcément, moi, j'ai envie de vous demander, à vous, Ngonéfal, qui avez pensé l'architecture de cette saison Africa 2020 avec beaucoup d'autres personnes, notamment des artistes, des organisations de la société civile sur le continent africain, mais quelle serait votre vision de la ville en Afrique ? Est-ce que vous avez comme ça... une ville idéale, une image, des images, quelque chose qui...
Non, j'ai pas vraiment de ville idéale. J'ai des villes coup de cœur. Je sais que la première fois que je suis allée au Caire, je me suis sentie chez moi. C'est assez bizarre, hein, oui. Parce que quand même le Caire, c'est pas Dakar, hein. Mais je me suis sentie chez moi. Et pour la première fois de ma vie, même si j'ai beaucoup voyagé sur les 5 continents, je me suis dit, je peux vivre ici. Donc ça reste le Caire, c'est une ville coup de cœur.
C'est de l'ordre de l'intuition.
J'ai compris la ville, j'ai compris ses codes, j'ai compris cette énergie dévorante. C'était New York mais en mieux, en gros.
Pourtant, New York en mieux, on cite Lagos plutôt.
Non, Lagos est épuisant. Lagos est un monstre qui vous dévore, qui vous suce toute votre énergie au bout de 2 heures.
Plus de 20 millions
d'habitants.
C'est pas
possible. Le Caire, ça me convient mieux, le Caire.
Qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter pour Africa 2020 dans ce contexte?
Un esprit positif, être entouré d'ondes positives, que les personnes qui ne comprennent pas la saison prennent le temps d'aller sur le site internet plutôt que de taper sur la saison, de taper sur ce qu'il apporte sans savoir ce qu'il en est. Essayer de comprendre, quand je dis regarder, comprendre le monde, c'est pas seulement ceux qui sont... de l'autre côté qui va être un public de consommateurs, mais comment est-ce qu'on peut aussi être acteur et d'arrêter de faire des procès d'intention, parce que c'est un peu minable.
Les jeunes, en tout cas les enfants, ont cette curiosité naturelle, cette envie d'aller vers l'autre.
Oui, et je pense que d'avoir dédié cette saison à la jeunesse, c'était un choix délibéré. C'est quand même l'avenir. Et qu'on se dit qu'on ne n'est pas idiot, donc faisons le pari d'un investissement sur le long terme, et que ces 274 projets pédagogiques, où à chaque fois c'est une classe d'une ville en France avec une classe d'une ville en Afrique, qui justement par le biais d'Internet montent ensemble une plateforme et construisent ensemble un projet, ça peut être un simulateur de vol, un court-métrage, une pièce de théâtre, c'est rafraîchissant. Il se pose beaucoup de questions et comment ça se passe chez toi. Mais il y a une sorte de fierté, voilà, c'est sans filtre. Mais en même temps, on s'aperçoit que c'est ces gamins, qu'ils soient à Dakar, qu'ils soient à Mombasa, qu'ils soient à Toulouse ou qu'ils soient à Clermont-Ferrand, ce sont les mêmes jeunes. Et ça fait du bien.
Qu'est-ce que vous attendez des diasporas africaines ? Un trait d'union entre ceux qui vont recevoir la saison en France, ce qui l'inspire sur le continent africain.
Quelle est votre définition de diaspora? Dans ma compréhension, la diaspora, c'est par exemple, on va dire la diaspora sénégalaise. Donc les Sénégalais qui sont basés en France, beaucoup à New York, etc. Donc ce sont les Sénégalais de l'extérieur. Si vous me parlez d'une Française dont les parents ou les grands-parents viennent du continent, pour moi c'est une Française.
A priori, on entend par diaspora des gens qui ont gardé un vrai lien culturel avec le continent d'origine.
Ça dépend, qu'est-ce qu'on appelle un lien culturel? Est-ce que parce que à la maison ils ont mangé du manioc quand ils étaient petits et qu'ils ont appris 2-3 mots de Lingala ou de Bambara et qu'ils sont aussi dans une Afrique rêvée?
Et vous êtes confronté à ce public-là, notamment dans les écoles?
Mais on est confronté à la population française dans tout ce qu'elle a de diverse. Donc il y a un peu de tout. Et les clichés, je veux dire, les clichés, ils sont pas seulement dans la tête de Gwendoline, pour dire les choses un peu simplement. Donc,
sous-entendu, ils sont aussi dans la tête de ces enfants issus des diasporas.
Mais parce qu'on parle de
dans leur méconnaissance, de...
Oui.
Méconnaissance du continent, de leurs origines.
Mais parce qu'en plus, c'est difficile de dire je connais tout un continent. Moi, ce continent, je le sillonne depuis 1993, mais ça veut pas dire que je le connais. On parle de 30 millions de kilomètres carrés, 1,2 milliard de personnes. C'est impossible. On peut être né en France, être dans un cercle familial avec des parents ou des grands-parents qui sont de Oran, d'Alger, ou de Kati ou de Bamako. Et donc avoir un certain accès à une partie de la culture de ses parents. Mais dès qu'on débarque à Alger, à Oran, à Kati ou à Bamako, mais de loin, on les voit débarquer. Je veux dire, les Français qui débarquent l'été ou qui viennent pour quelque chose, ce ne sont pas des locaux. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les repères. Le langage corporel n'est absolument pas le même. Ce sont des Français. Et tant que la France n'arrêtera pas de dire diaspora, donc en les mettant de côté, tout en disant on est contre le communautarisme, mais c'est un peu sectaire comme définition. Et à force de faire ça pendant des décennies, ben forcément, ces personnes, avec de gros guillemets, s'organisent entre elles. Et donc après, on dit, mais vous vous communautarisez, vous vous radicalisez. On les a acceptés, ils sont français, ils sont nés français. Mais à l'école, déjà, on leur disait pas qu'ils étaient français parce qu'ils avaient des noms de famille bizarres. Donc les problèmes, je veux dire, ils datent pas d'aujourd'hui. Comment est-ce que la France les résout? C'est pas à la saison et c'est certainement pas à moi de trouver des solutions. Mais cette saison, elle permet aux uns et aux autres soit d'en être acteurs, soit d'en être consommateurs et de venir à la rencontre d'autres personnes.
Ouais. On comprend bien en vous entendant que Africa 2020, ce sera aussi beaucoup de vrais sujets de société bien au-delà de l'art pur. En tout cas, Ngonéfal, je signale parmi les très nombreux événements la Nuit des idées en direct du Collège de France. Ça, c'est le 28 janvier, jeudi prochain, qui fera l'objet de l'émission de Pascal Paradou de Vive Voix, à laquelle vous participez en partenariat avec l'Institut français.
Je dois parler encore d'architecture avec Pascal.
Y a-t-il une bonne distance, hein? C'est le sujet. Comment philosopher avec la distanciation sociale? Mais effectivement, vous parlerez sûrement d'architecture.
C'est le but.
Merci mille fois, Ngonéfal, d'avoir participé à 7 milliards de voisins. Et on vous souhaite évidemment bonne chance pour cette saison Africa 2020.
Merci pour l'invitation et merci pour vos souhaits.
Et on se quitte avec Frottez les mains, Balaké Sissoko et Ouxmo Puccino.
Frottez les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer. Frottez les mains, peut-être pour nous rapprocher. chaque fois que je t'effleure n'a rien de commun. Quand on s'aime, on se frotte les mains. Tous les soirs, je me dois te célébrer. Les lendemains sont mes jours préférés. Tiens-moi fort, volontiers, que mes bras retiennent le ciel tout entier. Ce matin, je vais travailler sans appât du gain. Donc je me frotte les mains. Quand t'as que l'appât du gain, t'es ennuyé. Sans passion, tu disparais sous-payé. Les mains sont faites pour se guérir, soulager ou créer des souvenirs. Tactile, mon vocabulaire n'étouffe pas. Beaucoup pensent communiquer et ne se touchent pas. Bébé est tombé, il s'est fait bobo. La bosse est massée, le dodo c'est cadeau. Ce qu'on dit de plus fort passe par là. Les mains dans les poches, ça sonne l'alarme. T'es d'accord, on sait serrer la pince. L'oublier, c'est se faire le coup du lapin. Les paumes tournées vers Neptune, c'est s'offrir une autre lecture. J'ai la main levée en signe de paix. Frottez les vôtres, s'il vous plaît.
Nous avons le plaisir d'accueillir la voisine Diara Ndiaye pour l'émission Alors on dit quoi ? Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Au menu de votre émission de ce samedi, Alors on dit quoi ? Les souffrances du monde de la culture dans les pays du Sahel.
Effectivement Emma, cette pandémie de coronavirus fait de nombreux dégâts et le Sahel n'est pas épargné. Au Mali, 2021 s'annonce incertaine pour certains acteurs culturels, même si d'autres s'organisent déjà pour notamment relancer leur activité en dépit de la pandémie et des mesures de restriction toujours en vigueur dans le pays. Maliki, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Les œuvres artistiques vont intégrer cette pandémie. Et vous allez voir désormais que dans les productions, on va voir les acteurs porter des masques et on va beaucoup parler aussi de cette maladie parce que beaucoup de gens ne croient pas. Mais je pense que les artistes et la communauté des acteurs culturels du Mali seront des outils indispensables à la sensibilisation à cette pandémie. C'est pourquoi nous avons un très très grand rôle à jouer. D'ailleurs, même en mars 2020, la communauté des artistes et des acteurs culturels du Mali a produit plus de 100 œuvres de sensibilisation contre cette maladie.
Eh bien, le rendez-vous, c'est demain, ce samedi, sur la Radio du Monde. Alors, on dit quoi ? Sur les souffrances du monde de la culture au Sahel. Les horaires, Diara ?
Rendez-vous à 11h10, temps universel, Emmanuel.
C'est bien noté. À demain, Diara.
À demain.
Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera du trafic d'animaux sauvages qui se poursuit malgré la pandémie. Un commerce illégal parmi les plus lucratifs dans le monde. Comment protéger les espèces menacées ? Bien sûr, vous aurez la parole au 33 7 64 45 51 41. Et puis merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas évidemment que vous réécoutez toutes nos émissions en libre-service, en podcast, sur les plateformes de téléchargement. Et vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux. Dans quelques instants, le journal. À lundi les voisins, très bonne fin de semaine.
7 milliards de voisins, c'est fini.